Bonjour, je voudrais faire une lecture d'un proverbe 4, 26, s'il vous plaît. Proverbe 4, 26. Ô Seigneur Jésus, je te prie de nous aider à bien régler toutes choses sur le chemin que nous avons personnellement entrepris. Merci Jésus. Amen. Voici ce proverbe 4, 26. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Nous avons tous commencé un voyage essentiel lorsque nous avons quitté le monde des esprits et que nous avons commencé à vivre dans cette étape souvent difficile que nous appelons la condition mortelle. Le but premier de notre existence sur cette terre, c'était d'obtenir un corps de chair et puis d'acquérir une expérience. Cette expérience, nous le savions avant de venir sur cette terre, n'était possible que par une séparation avec notre Père céleste. Et cette expérience, c'était de voir si nous allions respecter les commandements. Alors nous sommes venus dans cette condition mortelle, et c'est afin de démontrer si oui ou non nous ferons tout ce que notre Seigneur Dieu nous a commandé. Quand on est venu sur terre, on a apporté avec nous un grand don de Dieu, qui est la connaissance du bien et du mal. Nos premiers parents, Adam et Ève, n'avaient pas ce don. Dieu voulait leur donner parce que Dieu avait cela. Il connaissait le bien et le mal. Et il voulait le donner à l'homme et à la femme, mais Adam et Ève ont commis un péché, ils ont volé. Ils ont volé. Et ils ont pris ce que Dieu voulait leur donner avant l'heure. Et maintenant, quand nous naissons, nous venons avec cela, avec cette connaissance du bien et du mal. Nous avons des milliers de possibilités de choisir par nous-mêmes avec cette connaissance. Et on apprend à la dure école de l'expérience, n'est-ce pas? Nous discernons le bien du mal, nous distinguons le haut du bas, l'amer, le doux, toutes ces choses, et nous apprenons que nos décisions déterminent notre destinée, pas seulement notre destinée proche, mais aussi éternelle. Car elle nous montre qui nous sommes. Notre comportement montre qui nous sommes. Et ce n'est pas à cause du bien et du mal que nous aurons fait ici-bas que nous serons sauvés ou condamnés, mais à cause de qui nous sommes. C'est ce que nous faisons qui montre qui nous sommes, bon grain ou ivraie. En tant que bon grain, puisque ce soir je m'adresse à des chrétiens, en tant que bon grain, il peut nous arriver de faire de mauvais choix et de faire de mauvaises choses, mais nous pouvons nous repentir et abandonner les mauvaises actions. Dans notre cœur, nous avons reçu l'appel de notre Père céleste et son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants et si nous l'avons attristé, nous le ressentons dans notre cœur et nous pouvons confesser notre péché et Dieu est fidèle et juste pour pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous savons que lorsque nous avons quitté le monde des esprits, lorsque nous avons quitté la présence de notre Père pour venir ici-bas, nous savons que nous avions un ardent désir de revenir au Père. Et nous savions que quand nous allions revenir au Père, nous allions recevoir de lui ce qu'il a prévu de toute éternité pour nous. Alors, on est ici et nous devons montrer qui nous sommes. Nous sommes ce que la Bible appelle sur cette terre perdu. Ça ne veut pas dire condamné, ça veut dire on est perdu. Cependant, Dieu ne nous laisse pas sans directive, il ne nous le laisse pas sans conseil, au contraire. Il nous donne des outils nécessaires, il nous aide aussi si nous lui demandons, et si nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour persévérer jusqu'à la fin, parce que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Si nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir, eh bien nous obtiendrons notre place auprès de lui dans l'éternité. Alors pour nous guider, nous avons les paroles de Dieu dans les Saintes Écritures, nous avons les recommandations, les enseignements aussi des ministres de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et le plus important de tout, il nous a été donné un exemple parfait à suivre, celui de notre Seigneur, celui de notre Sauveur, Jésus-Christ, quand il était lui-même dans la condition mortelle. Nous avons reçu l'instruction de suivre son exemple. Jésus lui-même a dit « Viens et suis-moi, car les œuvres que vous m'avez vu faire, vous les ferez aussi. » Ce n'est pas seulement les miracles, c'est tout. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait. Et il nous pose la question « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Et la réponse se trouve dans la Bible. « Tel il est, tel nous sommes, tel nous devons être. » Voilà cette sorte de personne que nous devons être. Tel qu'il est. Alors, si nous prenons Jésus comme exemple, alors nous pourrons retourner sain et sauf auprès de notre Père Céleste et vivre avec lui pour toujours, parce que je crois une chose importante, que si une personne ne persévère pas jusqu'à la fin dans ses efforts pour suivre l'exemple du Fils de Dieu, elle ne peut pas être sauvée. Il ne suffit pas de croire, d'être baptisé, mais il faut aussi marcher à l'exemple de Jésus, comme il a marché. Je dis bien comme il a marché, parce que grâce au frère et à la sœur Alaman, Michou et moi, on a pu aller en Israël. Et là-bas, ça m'arrivait souvent de penser, oh là, je suis en train de marcher là où Jésus a marché. Et puis, nous étions dans des emplacements où il avait enseigné et peut-être quand j'étais assis, je me souviens, je m'étais assis sur un rocher, je me disais peut-être qu'il s'est assis là aussi, et quand je regardais le soir les chaînes de montagne comme ça, après une journée de soleil, je savais que ses yeux les avaient vus aussi. C'était palpitant pour nous de vivre ça, c'était merveilleux, mais marcher physiquement là où Jésus a marché est beaucoup moins important que de marcher comme il a marché. Reproduire ses actes en suivant son exemple, c'est bien plus important que de marcher sur les sentiers qu'il a foulés alors qu'il était dans la condition mortelle. Ça, c'est le côté sentimental. Quand Jésus a demandé à l'homme riche « Viens et suis-moi », il ne lui demandait pas simplement de le suivre par mont et par veaux. Il n'est pas nécessaire d'aller à Jérusalem ou sur les bords du Jourdain pour marcher là où Jésus a marché. Nous pouvons tous marcher sur ses pas, là où nous sommes, qui que nous soyons. Quand sa parole résonne à nos oreilles, quand on l'entend prêcher, quand on la lit, quand son esprit remplit notre cœur, quand ses enseignements dirigent notre vie, eh bien nous choisissons de le suivre pendant notre voyage dans la condition mortelle. Et son exemple, eh bien, il éclaire notre chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et comme on regarde Jésus vivre dans la condition mortelle, on le voit passer par de nombreuses difficultés. Et ces difficultés, elles sont comparables à celles que nous connaissons ou que nous connaîtrons dans notre vie. Par exemple, Jésus a marché sur le chemin de la déception. Il a eu de nombreuses déceptions. Je crois que la plus poignante des déceptions, c'est celle qu'il exprime quand il se lamente sur Jérusalem, au moment où il allait mettre un terme à son ministère terrestre. Le peuple juif était là, il en avait conscience, il savait que ce peuple avait refusé l'aile protectrice qu'il leur avait offerte. Il regardait Jérusalem qui allait bientôt être livrée à la destruction et il a été envahi d'une émotion, il a eu une profonde tristesse. déçus. C'est écrit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. Il a aussi parcouru le chemin de la tentation. Le diable l'a tenté. Et comme un lâche, lui qui était affaibli, 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne, était affaibli là, mais il n'a pas succombé. Il a résisté à chaque tentation. Et pour finir, il a dit « Retire-toi, Satan ». Et il nous est dit que le diable le laissa attendant une meilleure occasion. Il n'avait pas lâché comme ça. Et Jésus a connu aussi le chemin de la souffrance. Que dire de Gethsémané où il était en agonie? Personne ne peut oublier les souffrances affreuses sur la croix. Ça, c'est des souffrances extrêmes. Et ça n'a pas été les seules souffrances qu'il a endurées. Il a souffert de voir ses propres disciples douter de lui, jusqu'au point de voler dans la caisse commune. Mes frères et sœurs, nous connaîtrons tous le chemin de la déception, si on ne l'a pas déjà connu. Peut-être à cause d'une occasion perdue, peut-être à cause de la mauvaise utilisation d'un pouvoir, peut-être à cause de choix de quelques personnes que nous aimons et qui ont fait des mauvais choix ou de nos propres choix. Le chemin de la tentation sera aussi commun à chacun de nous. Il ne faut pas s'imaginer que parce que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas être tentés. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert afin qu'il y soit tenté par le diable. Matthieu chapitre 4. Et de même, il faut que le diable vous tente afin que vous puissiez montrer qui vous êtes. De même, on marchera sur le sentier de la souffrance, pas seulement de la tentation et de la déception, mais aussi de la souffrance. Nous connaîtrons des chagrins tout au long de notre chemin. Cependant, on peut aussi trouver des grandes joies. Et je crois que la plus grande joie, la plus grande satisfaction du chrétien, cette joie, elle provient du fait que nous marchons sur le chemin de l'obéissance. Ce n'est pas toujours facile, mais ça fait du bien. Moi, je pense que notre devise, elle doit être celle qu'on trouve dans la Bible, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Le texte continue en disant « Et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers ». Évidemment, aujourd'hui, la graisse des béliers, on n'offre pas beaucoup de graisse de bélier à notre époque, mais on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que la graisse des béliers qu'on offrait en sacrifice au Dieu vivant, mais voilà, maintenant, nous avons à offrir notre propre vie en sacrifice vivant. Et l'obéissance, ça vaut plus que ça, plus que notre propre vie que nous pourrions donner. On les compte? Ah, dans 1 Corinthiens 13, c'est bien dit, même il y en a qui meurent. Mais si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Donner sa vie pour les autres, si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Et quand on aime, Jésus dit, alors celui qui aime, qui m'aime, il fait ce que je commande. Donc on peut donner sa vie de deux sortes de manières, de la bonne ou de la mauvaise. Donc notre vie, c'est pas ce qui est le plus important. C'est l'obéissance, de la donner de la bonne manière. Le serviteur ne sera pas plus que son maître et nous n'aurons pas à souffrir plus que Jésus, c'est certain. Nous n'aurons pas à subir la croix comme lui pour les mêmes raisons. Mais le service que Jésus donnait, elle rendait la force aux gens qui étaient découragés, qui étaient déçus, qui souffraient. Et même ça allait jusqu'à rendre la force aux membres infirmes. Ça allait jusqu'à donner la vue aux aveugles, l'ouïe aux oreilles des sourds. Pour en arriver là, mes frères et sœurs, Jésus a dû emprunter le chemin de la prière. Et il nous a enseigné à prier. Alors évidemment, il y a le Notre Père. Qui peut oublier le Notre Père? Mais qui peut aussi oublier cette prière à Gethsémané où il dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il nous demande aussi de faire briller notre lumière pour que d'autres la voient, pour qu'on soit une inspiration et que les gens désirent vivre comme nous vivons. Bon, ils vont s'apercevoir qu'il y a un prix à payer et ils ne vont pas tous vouloir le faire, mais bon, il faut leur donner cette envie, il faut que notre lumière brille. Il nous a enseigné d'être moralement purs en pensée, en action. Il nous dit qu'il est bien plus important d'amasser des trésors dans les cieux que sur la terre. Et ces paraboles, les enseignent avec autorité, c'est magnifique. Dans l'histoire du bon samaritain, il nous enseigne d'aimer, de servir notre prochain. Dans la parabole des talents, il nous enseigne de nous améliorer, de tendre vers la perfection. Dans la parabole de la brebis perdue, il nous dit d'aller au secours de ces brebis qui ont quitté le chemin, qui ont quitté la bergerie, qui ont quitté la communauté. Elles se sont perdues. Il faut les ramener, les porter sur nos épaules. S'ils sont blessés, il faut les aider à revenir. Il promet que si nous le mettons au centre de notre vie, en apprenant sa parole, en suivant ses enseignements, en marchant dans ses pas, il a promis que nous aurons la vie éternelle et que cette vie éternelle, il nous l'a obtenue par sa mort et sa résurrection, mais nous devons marcher. Nous devons marcher comme il a marché, persévérer jusqu'au bout. Il n'y a rien de plus élevé que ça. Que nous choisissions d'accepter sa discipline. Que nous acceptions de devenir des disciples, jour après jour. Pas simplement parce qu'un jour on a tout vendu, puis on a mis là au pied des fondateurs de la communauté, puis alors voilà, maintenant on pense, voilà, je suis disciple. Non, être disciple, c'est persévérer jusqu'au bout et accomplir son œuvre tout au long de notre vie. Il n'y a aucun autre choix qui peut nous faire devenir ce qu'il veut que nous soyons que cela. Il n'y a pas d'autre choix. Et quand je pense à ce que c'est qu'un chrétien, il y a beaucoup de livres, mais j'ai eu le privilège de rencontrer des gens extraordinaires. Je pense tout de suite, quand je pense à des chrétiens, je pense à Violette, à Raphaël, je pense à T.L. Osborne, je pense à Daisy Osborne. Voilà des gens qui, au commencement, n'étaient pas très avantagés, ils avaient des moyens très limités, mais ils partageaient ce qu'ils avaient. Et Osborne était un homme instruit, Raphaël ne l'était pas. Mais les deux, ces deux foyers attiraient. Les gens cherchaient leur compagnie. Même j'ai vu des gens instruits chercher la compagnie de Raphaël qui ne savait pas lire. Pourquoi ? Tous ceux qui ont connu les Osborne, tous ceux qui ont connu Raphaël, Violette, eh bien, tout cela considérait que passer une heure avec eux, c'était une bénédiction. J'ai vu des gens se précipiter à leur porte pour bénéficier de l'esprit qu'on ressentait quand on était avec eux. En fait, leur habitation, la maison des Osborne était magnifique, la maison des Raphaël et Violette, c'était pas terrible. Mais ces deux maisons étaient en coin de ciel sur la terre. Et c'est de cela dont je parle ce soir, de marcher sur les pas du Seigneur au point que son esprit émane de vous sur les autres. Alors on a lu le Proverbe 4, 26 où il est dit « Considère le chemin par où tu passes ». Dans une autre version, c'est « Aplanis le chemin par là où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne dévie ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette exhortation. Merci mon Dieu parce que ces quelques mots me donnent du courage pour continuer sur ce chemin que j'ai emprunté depuis 1968. Et je te remercie de toutes les belles choses que j'ai vécues, et aussi pour les souffrances, les problèmes, les déceptions. Tout cela a servi à faire de moi la personne que je suis devenue, et je sais, Seigneur, que tu vas continuer ton œuvre jusqu'à ce que finalement tu me reprennes à toi. Et je te remercie, mon Dieu, parce que nous pouvons tous avoir cette vision. Merci pour tout ce qui nous arrive, parce que cela contribue à notre bien, à notre édification, en vue du jour où nous entendrons de ta bouche sortir ces mots magnifiques. Entre dans la joie de ton Maître. Merci, Jésus. Amen. Amen.